Curieux.
Humain.
Dynamique.
Persévérant.
Surprenant.
Convivial.
Et visionnaire.
Bonjour à tous, je suis Marine, guide à l'Office de tourisme de Toulouse et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Toulouse dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous parlerons innovation dans la ville aux roses, au passé, au présent et au futur. Historiquement, Toulouse est une terre de pionniers. Et de nos jours, ses pôles d'excellence sont l'aéronautique, le spatial, l'intelligence artificielle et les sciences de la vie. Plusieurs sites toulousains s'en font caisse de résonance et proposent de vivre l'aventure scientifique. Nous allons pousser les portes de certains d'entre eux pour vous amener à la rencontre de ceux et celles qui participent à cette aventure. C'est au cœur du musée Aéroscopia, lieu incontournable pour les passionnés d'aéronautique, que nous allons poser notre micro. Situé à deux pas des chaînes d'assemblage d'Airbus, ce musée retrace l'histoire de l'aviation et permet de découvrir de nombreux appareils, comme le légendaire Concorde ou encore le géant des airs, l'A380, dans lesquels les visiteurs peuvent rentrer. Et c'est Noémie Lamoureux, guide conférencière et médiatrice au sein du musée, qui nous accueille pour parler de l'aéronautique d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici à Aéroscopia.
Merci à vous d'être venue.
Donc, quand on parle de la ville de Toulouse, très rapidement, on associe l'idée de l'aéronautique. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi et pourquoi Toulouse est une capitale de l'aéronautique ?
Ça remonte à il y a des années, on avait des pionniers qui s'étaient installés à Toulouse un peu par hasard, notamment Clément Ader qui était de Muret. Et ce monsieur était un pionnier parce qu'il avait fabriqué un avion sorti de son imagination qui ressemblait à une chauve-souris, qu'il avait nommé Éole en référence au dieu du vent. Et on n'a jamais cessé de fabriquer des avions dans cette région pour tenter justement d'atteindre cet objectif de réussir à voler dignement. Et donc on va continuer de fabriquer des avions, notamment avec la grande aventure aéropostale. On va fabriquer des avions pour la guerre aussi, c'est un contexte très triste. Mais c'est ce qui fait qu'on a fait des avions assez merveilleux. Puis on a une grande aventure qui a été le Concorde, on a Airbus qui s'est installé aussi dans cette région. On ne va jamais quitter cette région parce qu'il y a de plus en plus d'aventures qui ont fait que l'histoire s'est forgée ici.
Donc ça fait maintenant des années, des décennies que Toulouse est donc une terre d'aéronautique, une terre d'aviation. J'imagine qu'entre le Éole de Monsieur Ader et les avions que produit aujourd'hui Airbus, il y a quand même eu quelques changements, quelques innovations. Vous pourriez nous en parler ?
Alors heureusement qu'il y a eu des changements parce qu'à l'époque, on avait des avions en tissu, en bois. Alors on avait un avion qui s'appelait Blériot 11 qui a été fabriqué avec un siège en osier, un moteur de moto.
Très confortable vraiment. Ça donne vraiment envie.
Ça donne vraiment envie de traverser la Manche avec ça. Et pourtant, Monsieur Blériot l'avait fait avec cet avion-là. Donc heureusement qu'on a fait des progrès en termes de mécanique, en termes de matériaux. Donc on a tout de suite utilisé de l'aluminium, on a arrêté d'utiliser du bois. On a utilisé des mécanismes qui nous ont permis de faire des moteurs plus puissants pour traverser l'océan. Enfin vraiment, heureusement qu'il y a eu des progrès et que les avions sont ce qu'ils sont aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui, on continue d'innover, et notamment à Toulouse. Est-ce qu'on participe, on contribue à cette innovation dans le secteur de l'aéronautique ?
Bien sûr, et on se doit d'innover parce qu'on a ces contraintes environnementales qu'on connaît. Donc on se doit de trouver d'autres solutions, notamment par rapport aux énergies fossiles. Donc on a des grosses innovations sur la motorisation, faire en sorte que les moteurs soient les moins énergivores possibles, les plus silencieux possibles. Donc les innovations aujourd'hui, comparées aux innovations d'avant, sont plutôt invisibles parce que les moteurs ressemblent aux moteurs qui existaient avant et pourtant les innovations sont vraiment très importantes. Autre innovation, c'est aussi sur les matériaux. La 350 en est le symbole. C'est un avion qui est particulièrement léger et donc qui dit avion plus léger dit avion qui consommera moins de kérosène. Et s'il est plus lourd, alors c'est qu'il est plus rentabilisé. Donc c'est ça les innovations qu'on va réussir à faire aujourd'hui sur les avions qu'on pourrait prendre pour partir en vacances. Et les innovations qu'on va faire aussi, ça va être sur d'autres énergies autres que les énergies fossiles, comme l'hydrogène, l'électrique ou le solaire. Alors ça, c'est plus difficile pour l'instant de l'appliquer sur les avions qui transportent des passagers. Il n'empêche qu'on va réussir à faire des planeurs solaires ou des avions de tourisme électriques. Donc c'est déjà ça de moins en termes d'utilisation d'énergie fossile. Donc c'est vraiment très, très encourageant pour la suite.
Et j'imagine qu'on évoquait la 350, donc c'est le dernier né, entre parenthèses, de la flotte Airbus. Mais on imagine qu'aujourd'hui, dans les bureaux, on travaille à l'avion de demain.
Bien sûr, on se doit de le faire. Donc peut-être que dans les années qui arriveront, on va découvrir des avions extraordinaires.
Eh bien, merci beaucoup Noémie de nous avoir reçus ici à Aéroscopia.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
changement de décor pour la suite de notre balade. Nous voici à présent au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, où Francis Duranton, conservateur en chef et directeur du muséum, nous reçoit. Bonjour Monsieur Duranton.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici au sein du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Toulouse.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du Muséum de Toulouse, nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu et en quoi notre muséum a été innovant, pionnier au cours de son histoire?
Déjà, il est un peu pionnier au moment de sa fondation, puisque c'est à peine 3 ans après la création du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui est la transformation du Jardin du Roi, que le muséum a été créé à Toulouse en 1796 par Philippe Picot de la Pérouse, qui était le grand naturaliste toulousain de la fin du XVIIIe siècle.
Et en quoi alors ce muséum était un peu pionnier au moment de son ouverture, par ses collections, peut-être des découvertes qui ont été faites?
Alors il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient liées en fait aux travaux pionniers qu'avait construit à l'époque Philippe Picot de la Pérouse, à la fois en paléontologie, puisqu'il a été le premier à étudier un groupe de fossiles cousins des huîtres qu'on appelle les rudistes, qu'on trouve dans l'Aude notamment. C'est également un des grands pionniers de l'exploration botanique des Pyrénées. Donc ça c'est peut-être au moment de la fondation. Au moment où le musée a ouvert au public, quasiment 80 ans après, en 1865, c'est le premier musée du monde qui consacre une galerie à la préhistoire, qui est une discipline naissante à l'époque, qu'on ne connaît pas. Le muséum crée la première galerie ouverte au monde consacrée à ce qu'on appelait à l'époque les cavernes. Et puis par la suite, au muséum de Toulouse, on va développer de nouvelles techniques de taxidermie qui ont été mises en œuvre notamment par Philippe Lacombe entre les années 10 et les années 30. Et le grand éléphant qui est à l'entrée du muséum, dans le grand hall d'entrée du muséum, eh bien, est un témoin de cette évolution de la taxidermie, puisqu'à l'époque, autrefois, on bourrait l'animal avec de la paille, d'où le terme empaillé, alors que lui va mettre au point des mannequins en bois sur lesquels il va sculpter du liège pour coudre la peau par-dessus, ce qui va donner une allure beaucoup plus vivante, beaucoup plus proche de la vérité à l'animal et qui, en même temps, aura l'avantage de le rendre un peu plus léger. Et puis, on continue, ces innovations se sont continuées tout au long de l'histoire et actuellement encore, nous travaillons sur de nouvelles techniques de taxidermie que nous sommes en train de développer.
Et en plus donc de ces nouvelles techniques, y a-t-il d'autres thèmes, sujets sur lesquels travaille le muséum? Car souvent on dit muséum, on aurait plutôt tendance à penser à quelque chose d'ancien, un peu figé dans le passé, alors que pas du tout.
Non, un muséum c'est quelque chose qui vit, qui est vivant et sur lequel on travaille en permanence. D'abord, il y a tout un tas de travail qui est mené, une recherche qui est menée sur les collections, par exemple sur les problématiques de conservation des collections. On a développé des projets de recherche avec lesquels on a travaillé avec des représentants des universités, du CNRS, du Muséum National, pour essayer de trouver de nouvelles manières de conserver, de mieux conserver encore les collections dont nous avons la charge. Donc on a cette problématique de recherche. Et puis d'autre part, le muséum participe régulièrement, ne serait-ce qu'à travers ses collections, à tout un tas de programmes de recherche, parce qu'il faut bien comprendre que les collections que gère un muséum, finalement, ce n'est jamais qu'une immense base de données pour tous les chercheurs de toutes les disciplines.
Et en plus donc, du muséum à proprement parler, il existe une autre entité, le Quai des Savoirs. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Oui, le Quai des Savoirs est notre voisin. Et d'ailleurs, nous sommes tous regroupés sous une bannière qu'on appelle ici à Toulouse « On aime le futur ». Et c'est vrai que le Quai des Savoirs s'interroge aujourd'hui sur comment on peut mettre la science en action pour créer un futur désirable. Donc nous conservons d'une certaine manière les traces du passé, tandis qu'au Quai des Savoirs, on se projette vers le futur. Ici aussi, bien évidemment, on se projette sur le futur, mais avec la dimension patrimoniale que sont nos collections et avec toutes les techniques d'innovation que le Quai développe à côté. Donc finalement, nous sommes deux équipements extrêmement complémentaires.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Duranton. Et maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. Venir découvrir le muséum ainsi que le Quai des Savoirs.
Ce muséum, c'est le vôtre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Pour finir, nous avons rendez-vous dans un centre de recherche avec Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'IRAP, astronome et planétologue. Il a notamment travaillé à la réalisation de rovers nommés Perseverance et Curiosity, qui sont aujourd'hui sur Mars, pour collecter des échantillons qui repartiront vers la Terre à bord du véhicule HERO, Earth Return Orbiter, construit en ce moment même à Toulouse. La Ville Rose est également impliquée dans le programme lunaire Artemis, qui prévoit d'amener à nouveau des astronautes sur la Lune. Nous allons évoquer ensemble la place qu'occupe Toulouse dans le domaine de la recherche spatiale. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour Monsieur Maurice.
Mais bonjour.
Merci de nous accueillir ici à l'IRAP, qui est donc l'Institut de Recherche Astrophysique et de Planétologie, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, c'est un laboratoire de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, du CNRS, du CNES, dont la vocation est de construire des instruments pour explorer l'univers.
Alors, où êtes-vous allé, si je puis dire ?
Ah, on voyage beaucoup dans notre laboratoire, ça c'est le propre de ce qu'on fait. Au plus près, on est allé sur la Lune avec des petits robots qui nous ont accompagnés. Et puis on est allé ensuite vers Mars, vers Mercure, Jupiter, jusqu'à Saturne, jusqu'à Neptune. On a quelquefois embarqué des astéroïdes et on peut aller plus loin dans notre laboratoire. On va au-delà du système solaire, on va jusqu'au fond de l'univers. L'univers à grande structure. Et donc, c'est ça qui nous intéresse ici, c'est d'être capable, bien voilà, dès qu'on a quitté la Terre, de regarder toutes les échelles, qui sont des échelles évidemment d'espace, mais aussi de temps.
Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui fait un peu notre unicité dans ce secteur de la recherche, de l'espace et de la découverte donc ?
Alors, bon, Toulouse, il y a une raison historique. Évidemment, l'aéronautique a une raison historique à Toulouse, hein, être le plus loin possible des Allemands, des frontières allemandes. Bon, voilà. L'espace viendra après avec une volonté de délocaliser les affaires spatiales de Paris à Toulouse. Et de fait, Toulouse est devenue la ville de l'aéronautique et de l'espace. Alors là, je vous parle d'espace. Il y a d'autres villes qui font des fusées, des satellites, évidemment. Mais il y a quelque chose de spécial à Toulouse, c'est d'avoir été capable de réunir finalement toutes les compétences au même endroit. Donc, on va se retrouver à Toulouse avec... En premier lieu, je dirais une compétence universitaire académique. Et là, vous avez des laboratoires de recherche dont le but, c'est d'être à la pointe de l'innovation dans leur métier. Ça peut être des matériaux, ça peut être de l'électronique, ça peut être des instruments pour l'espace. Donc, la recherche. Souvent, associé à la recherche, évidemment, il y a la formation. Et Toulouse a cette propriété d'être une grande ville universitaire. Et ces universités de Toulouse participent, évidemment, à cette innovation dans l'espace, centrée sur l'Université Paul Sabatier quand il s'agit d'affaires techniques, mais on peut avoir aussi les autres universités. Par exemple, on peut faire du droit de l'espace à Toulouse. Et avec ces universités, vous avez les écoles à tous les niveaux. Hein. On a des écoles super-héros, c'est un peu écrit dans le titre, mais vous avez d'autres écoles d'électronique, de chimie, de maths, etc. Donc, le terreau universitaire formation, il est là. Et d'ailleurs, on l'a décrit jusque dans les lycées où on a des lycées de l'espace, et je crois que c'est une rare ville qui peut s'en prétendre. À côté, vous avez l'énorme pôle, finalement, de l'industrie. Eh bien, les industriels, on en a là, parce que nous, on peut avoir toutes les idées qu'on veut. On dit, je vais aller sur Mars, et évidemment, il faut que je trouve quelqu'un qui me dit, bon, t'as pas une fusée ou t'as pas un satellite, on y va ensemble quand même. Nos idées valent pas grand-chose si on n'a pas des porteurs, c'est plutôt de l'ingénierie. On se retrouvait la technique de l'ingénierie. Et on a deux grandes primes à Toulouse. On appelle les primes, c'est-à-dire c'est les très forts, Airbus DS, et puis aussi de Thales, qui vont porter les affaires spatiales avec aussi une myriade de petites entreprises qui peuvent être 3 personnes, 5 personnes, ils peuvent monter 100, 200, qui vont participer à un écosystème du spatial. Évidemment, dans cet écosystème, il a fallu l'organiser très tôt. Et pour ça, on avait mis en place une agence spatiale française, le CNES, dont le site principal est à Toulouse et dont la responsabilité, eh bien, c'est dans tous ces acteurs d'essayer de les faire travailler ensemble. Et nous-mêmes, les chercheurs des laboratoires, on répond au CNES quand il s'agit d'aller dans l'espace. Les industriels travaillent avec le CNES, pour le CNES. Donc, vous avez un écosystème industriel, d'agences, d'universités, d'industries, qui en fait une place forte. Alors, on a très vite senti qu'il fallait, dans tous ces sujets, les partager avec la société. Et donc, pour organiser tout ça, il a fallu donner des lieux de culture scientifique. Et la propriété, je pense, de Toulouse, c'est d'avoir des lieux de culture scientifique en résonance avec nos forces les plus grandes. Et ainsi, on trouvera le Muséum d'histoire naturelle où on va faire résonner toutes les affaires géophysiques, l'étude de la Terre. Parce que finalement, l'espace, c'est bien beau, mais ce qui est important, c'est la Terre. Et en plus, le Muséum a une histoire Mais non, c'est des choses qui sont très, très vieilles. Ils ont construit la science, ils continuent. On a par exemple une météorite, la météorite d'Orgueil au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, qui est pour nous la météorite dont la composition est la référence de la composition du système solaire au moment de sa formation, il y a 4,56 milliards d'années. Eh bien, partout dans le monde, on dit la référence, c'est Orgueil, et elle est à Toulouse. Donc, on a des très belles choses au muséum, et puis énormément d'autres choses à voir. Et avec la déclinaison de la Terre vers le vivant, c'est ça qui est intéressant dans le muséum. On a aussi Aeroscopia, qui est plus dans la dimension plutôt aéronautique. Et ça fait partie de la famille. Parce qu'on a énormément d'échanges de technologies entre l'espace et l'aéronautique, énormément. Voilà. Et puis, bien sûr, la Cité de l'espace, qui est un peu le phare des activités spatiales, qui n'est pas unique. Chacun essaie de faire, il y a plein de villes qui essaient de faire un peu d'espace. Mais dans sa taille, dans son ambition, dans ses rayonnements, c'est devenu le premier site de culture scientifique spatiale en Europe, qui maintenant fait jeu égal avec les grands sites, qui soient américains ou chinois, par exemple. Et donc, où là, la cité va chercher des experts. Et ça tombe bien, ils sont tous là autour, à Météo France, dans les laboratoires, etc. Ils sont tous là autour en disant, bah, voilà, j'ai mes experts pour être sûr que ce que je monte, c'est en phase avec, pas la recherche d'il y a 20 ans, la recherche d'aujourd'hui. Et donc, il y a cet échange permanent qui est intéressant. Et en même temps, nous, les chercheurs, on est ravis d'avoir une caisse de résonance de ce qu'on fait. Quand on part sur Mars, eh bien, on est bien content de voir la Cité de l'espace qui est capable de faire naître un terrain martien et qui, tous les jours, dans un amphithéâtre d'à peu près 200 personnes, eh bien, les gens succèdent pour mieux comprendre comment fonctionne un rover, qu'il soit américain, qu'il soit chinois. Et donc, il y a cette communion qui fonctionne très bien. Et on la doit à toutes nos édiles qui ont mis en place ce système qu'on essaie de faire vivre. Donc, réponse longue pour une question courte. Toulouse est la ville, je pense, qui a développé parfaitement cette sorte de synergie entre des agences, des industriels, la recherche, la formation autour de l'espace.
Merci beaucoup, Monsieur Maurice.
Eh bien, merci de votre attention pour notre thématique espace innovation. Merci.
Merci encore, au revoir. Et c'est la tête dans les étoiles que s'achève notre balade. Mais si vous souhaitez poursuivre l'aventure, n'hésitez pas à vous rendre à Aeroscopia, au Muséum de Toulouse ou encore à la Cité de l'Espace. Nous remercions nos intervenants et vous invitons à contacter l'Office de Tourisme si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à la série Toulouse dans vos oreilles. Merci pour votre écoute et à très bientôt.